Comment allez-vous? Eh bien, nous y sommes dans ces premières vacances de l'année. Les Français ne sont, paraît-il, jamais autant partis. Moi, j'aime le train, c'est toujours une aventure. Quand j'étais enfant, il y avait encore des compartiments dans les trains. C'était super, une petite pièce pour nous tout seuls. Enfin, pas tout à fait, car nous ne remplissions pas toujours les 8 places du compartiment. Nous nous installions, puis espérions que le train n'était pas plein et que personne ne viendrait. Si d'aventure un courageux ouvrait la porte et faisait mine de s'asseoir, ma mère disait bien fort à l'un d'entre nous « Tu as toujours envie de vomir ?» Ou bien se grattant frénétiquement la tête « Oh zut, nous avons encore oublié la lotion anti-poux !» Et l'intrus repartait aussi sec en bafouillant une excuse, nous laissant triomphants et mortifiés. Nous trimballons beaucoup moins d'enfants aujourd'hui qu'autrefois. Les trains n'ont jamais été aussi confortables et pourtant, les parents n'ont jamais été aussi stressés. Quand je croise des familles où boutent leur vie dans les trains, j'ai l'impression qu'ils reviennent de la retraite de Russie. Cela dit, ceux qui n'ont pas d'enfants n'y échappent pas. Quand ils s'aperçoivent qu'ils ont des enfants à côté d'eux dans le train, ils cherchent en panique une échappatoire, une position de repli, le wagon-bar, le strapontin devant les toilettes, les marches de l'escalier, tout plutôt qu'un gamin à côté. Ou pire, en face, ou pire que pire, à côté et en face, avec en supplément le parent dépassé. Ça, c'est le cauchemar du carré. D'ailleurs, la SNCF vient de décider de supprimer la moitié de ces carrés, car personne ne les réserve.
Bonjour, je m'appelle Aniel et je voudrais savoir pourquoi est-ce que dans le bus, le train ou tous les transports en commun, si on a le choix, on préfère s'asseoir à côté d'un siège libre plutôt qu'à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Merci.
Bonsoir Aniel. Georges Vigarello est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est intéressant à cette question.
Mais Aniel, tu as tout à fait raison. C'est tout à fait évident quand on compare les comportements ou quand on s'interroge sur son propre comportement. C'est tout à fait évident que l'on préfère, pour reprendre ton propos, bien occuper un siège vide à côté de personnes. Mais la raison n'est pas forcément liée au fait que l'on ne connaît pas la personne qui est à côté de soi. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intime et beaucoup plus intéressant. C'est que lorsqu'on est dans un siège seul, on s'appartient davantage. On est moins gêné par l'autre. C'est pas du tout parce qu'on le connaît ou on le connaît pas. On est moins gêné par l'autre. On est beaucoup plus autonome et on est beaucoup plus libre à la fois de ses mouvements et, je dirais même, de ses propres sensations. De sa lecture, par exemple, quand on lit, on est seul et on considère que c'est peut-être gênant de voir quelqu'un qui jette un coup d'œil sur le journal ou sur le livre qu'on est en train de lire. Donc il y a, dans la tentative d'avoir un siège unique, il y a une conquête qui est une conquête de la liberté et qui est une conquête de l'autonomie. C'est le fait d'être seul et d'avoir conquis son propre espace. C'est absolument fondamental.
Dans l'histoire, Georges Vigarello, vous êtes historien, est-ce que l'homme a plutôt été collé à d'autres hommes ou plutôt isolé?
Mais justement, c'est au cœur d'une question historique. Parce que lorsqu'on reprend les espaces, les situations anciennes, ce sont des situations de promiscuité. Même les situations nobles, même encore à l'époque de Louis XIV. Louis XIV se trouve dans des conseils où le lieu peut être aussi une chambre, où Madame de Maintenon peut se trouver présente et dormir dans son fauteuil à oreille, vous voyez. Donc il y a là, dans les époques anciennes, des situations qui pour nous seraient des situations de promiscuité intolérable. Et puis progressivement, il y a une conquête. Progressivement, les pièces se distribuent autrement, même dans les châteaux. Louis XV a des appartements privés qui ne sont plus les appartements, je dirais, de spectacles et de réceptions.
Appartements d'ailleurs à part.
Voilà, à part, ouais, qui étaient ceux de Louis XIV. Vous voyez, le château de Louis XV se transforme complètement. Les hôtels particuliers du milieu du XVIIIe siècle se transforment radicalement et installent des petites salles, des petits lieux, des petites chambres. Et puis il y a l'invention magnifique qui s'appelle la lecture de fort privé. C'est-à-dire vous lisez seul. Dans le silence. Et c'est une conquête individuelle.
Georges Vigarello a écrit une histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours aux éditions du Seuil. C'est un panorama historique de la perception de la fatigue, des abattements et des souffrances morales. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir s'il y avait des côtés sur un cercle. Au revoir. Merci.
Bonsoir Lise, je suis admirative d'avoir cette idée. Aurélie Jean, peut-être que cette question ne vous paraît pas étrange. Vous êtes docteur en sciences, vous êtes entrepreneur et vous vous occupez des algorithmes. J'ai un peu difficile à dire ce mot. Les algorithmes font-ils la loi? C'est le titre de votre livre aux éditions de l'Observatoire. Alors Lise parle de cercles et de côtés.
C'est une très bonne question, Lise. Je te remercie pour ta question qui est aussi, qui montre sa curiosité aussi de comprendre ce qu'est un cercle. Donc, pour répondre à la question, je vais revenir à la définition d'un cercle. Et vous allez voir que la question de Lise est très intelligente quand on va plus loin dans les mathématiques. Vous verrez pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'un cercle? Alors, un cercle, déjà, c'est dans un plan. Donc, c'est en deux dimensions. On n'est pas en trois dimensions, on est en deux dimensions. Un cercle est une ligne courbe fermée. D'accord? Alors qu'on passe d'un point du cercle et qu'on continue sur la ligne, on retombe toujours sur ce même point à un moment donné. Donc c'est une ligne de courbe fermée dont tous les points de la ligne sont situés à égale distance, donc à la même distance d'un point spécifique appelé le centre du cercle. Et Lise, tu as peut-être vu que la distance entre le point d'une ligne du cercle et le centre s'appelle le rayon. Tu as sûrement vu ça. Et deux fois le rayon, c'est le diamètre, comme on a tous vu à l'école. Donc cette distance, c'est le rayon. Il n'y a donc pas de côté strictement dans un cercle, parce qu'on parle de côté lorsqu'on va parler par exemple de polygone. Cela étant dit, et c'est très important lorsqu'on pousse les mathématiques, et peut-être que Lise pensait à ça, ou peut-être pas, mais lorsqu'elle grandira, elle comprendra sûrement. On parle de monde continu ici. Donc le cercle, c'est une ligne de courbe fermée dans un milieu, dans un monde continu. Si on prend un monde discrétisé, c'est-à-dire on discrétise l'espace par un ensemble de points et de lignes.
Qu'est-ce que ça veut dire de discrétiser ?
Alors discrétiser, c'est justement lorsqu'on va définir un plan en 2D par un ensemble de points et de lignes. On ne va pas le définir par un ensemble continu, donc c'est un milieu infini de points. Non, c'est un milieu fini de points et de lignes. Et à ce moment-là, on peut éventuellement dire que dans le cas du cercle, c'est une infinité de côtés qui recrée le cercle avec une infime précision.
Ah, en fait, vous lui dites qu'un point, c'est un petit trait.
En fait, tout petit. En fait, voilà, exactement. En fait, le cercle peut être défini par plein de petits points. Et quand sur chaque petit point, il y a une toute petite distance, en fait.
Un petit point, c'est un côté.
Voilà. Deux points. Entre deux points, c'est à côté. Donc, en fait, je dis ça parce que dans un monde discrétisé, où en fait, on n'est pas un milieu infini, lorsqu'on va définir de manière infinie les figures géométriques, on peut dire, en fait, un cercle, c'est une infinité de petits côtés, les uns à côté des autres, pour représenter une courbe fermée. Donc, je ne sais pas si Lise pensait à ça, je ne pense pas, hein, mais Lise, tu vois, ta question, en fait, elle est pertinente. Parce qu'elle, quelque part, sous-entend la différence entre un monde continu que tu apprends à l'école aujourd'hui, sans le savoir, et un monde discrétisé que tu verras peut-être dans le futur, dans tes études, où en fait, bah, parfois, on est obligé de ce qu'on appelle modéliser. Ça revient en fait à mon travail, hein. C'est-à-dire qu'on va modéliser, on va simplifier la réalité. Et par exemple, on peut même simplifier jusqu'à l'extrême en disant, en représentant un cercle par trois points et un centre, ça va être un triangle, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. On peut aller très loin dans la discrétisation. Donc ça s'appelle la simplification. Donc, on modélise la réalité. Voilà.
C'est assez incroyable parce que vous ouvrez un monde de transformation.
Exactement.
Ouais,
exactement.
Finalement, rien n'est figé.
Rien n'est figé et ça dépend dans l'espace dans lequel on se place. Ça dépend si on est dans le milieu infini ou si c'est en milieu discrétisé. Vous voyez, c'est mon travail en fait. Quand je modélise, je dois simplifier en fait pour plein de raisons.
Bravo, vous nous montrez que les maths, les sciences, eh ben c'est amusant.
Exactement, c'est un jeu.
Aurélie Jean est docteur, en sciences numériques et entrepreneur, elle vit entre la France et les États-Unis. Son dernier livre s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» aux éditions de l'Observatoire.
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je montrais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie. Et je roulerai dans la nuit en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits à Québec en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt dans un bar en dos. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule la bille sur du papier. Je mange des hot dogs, mais je bois du thé. Je
Satan's choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, je m'achète des beaux vieux habineux. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des guettés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper. Avec Aline, pourvu que ça pine. Avec Thérèse, fraise contre fraise. Faut pas que ça niaise. Oups. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour
Québec.
Si j'avais des lumières sur mon bac, je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je montrais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie. Et je roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai dans la nuit. En rechantant ces jolies mélodies, j'ai passé de belles nuits. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en te caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto, mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Ah oui, mais si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour
Québec.
À nous aussi, ils nous donnent envie de partir pour Québec, Robert Charlebois, avec cette belle chanson, Les ailes d'un ange. Fraise contre fraise, faut pas que ça niaise.
Les petits bateaux sur France Inter.
Catherine Laine, que nous l'aimons au petit bateau. Elle est enseignante, chercheuse à Grenoble.
Bonjour, je m'appelle Marius, j'ai 10 ans. Je voudrais connaître la différence précise entre les fruits et les légumes. Merci, au revoir.
Bonsoir Marius, quel joli prénom et merci pour cette question précise qu'on se pose tous, Catherine Laine. Vous y consacrez un chapitre dans votre livre « Dans la peau d'une plante » édité chez Belin et vous êtes enseignante-chercheure à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Donc enfin savoir la vérité sur ces fruits et ces légumes parce qu'on dit tellement de choses.
Oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais si on doit parler de fruits ou de légumes et ça c'est quand on évoque les termes culinaires. D'accord,
oui, donc, voilà.
En général, le légume, c'est ce qu'on mange dans le plat de résistance, c'est salé. Et puis le fruit, c'est ce qu'on va manger en dessert et c'est plutôt sucré.
Maintenant, il y a des tomates.
Voilà, alors il y a le problème de la tomate, effectivement, qui est sucrée, qui... les gens disent, c'est quand même un fruit. Et pourtant, on la mange avec de l'ail, en plat de résistance. Donc... pour trancher, j'allais dire, oui. Si j'ose dire, il faut revenir à la définition de ce qu'est un fruit. On va donc remplacer la cuisine par la botanique et on va définir ce qu'est un fruit en botanique. Le fruit, c'est le résultat de la transformation d'une fleur après fécondation.
D'accord.
Donc, si je prends la tomate, justement, eh ben oui, si je remonte un peu dans le temps, je vois que sur mon plant de tomate, j'ai des fleurs, des petites fleurs jaunes, qui, lorsqu'elles sont fécondées par les insectes, se transforment en tomates. On voit apparaître la petite tomate toute petite, toute verte au départ, et puis elle s'enfle et elle rougit. Et effectivement, quand je la regarde une fois qu'elle est mûre, je vois des restes de cette fleur. Au bout de la tomate, il y a une petite pointe, c'est le reste de l'organe sexuel femelle de la fleur, le pistil. Et puis à la base, vers la queue, vous avez des petites feuilles vertes, et ce sont les restes des sépales de cette fleur.
D'accord.
Donc la tomate, c'est un fruit. Alors maintenant, si la tomate est un fruit, qu'est-ce que donc le légume ? Est-ce qu'on a en botanique quelque chose qui permette de définir ce qu'est un légume ? Eh bien oui, le légume en botanique, c'est une gousse, c'est-à-dire un fruit. Donc le légume est un fruit, Noël, mais le fruit d'une famille de plantes qu'on appelle les légumineuses, ou du moins qu'on appelait les légumineuses, c'est un terme un peu ancien. Le nom qu'on utilise maintenant, ce sont les fabacées. C'est-à-dire, oui, c'est un peu moins joli, mais en même temps, c'est plus scientifique. Et dans les fabacées, vous trouvez la fève, le haricot, le trèfle, etc. Donc, toutes ces plantes-là, Lorsque leurs fleurs sont fécondées et se transforment en fruits, elles se transforment en fait en gousses ou légumes. Gousses égale légumes.
Et dedans, il y a des graines.
Alors, dedans, à l'intérieur, oui, vous prenez un haricot, par exemple, oui, ou une gousse de petits pois, oui, et les grains à l'intérieur, ce sont les graines. Oui, effectivement. Donc, oui, fruits, légumes, c'est difficile de faire la différence en botanique parce que finalement, le légume est un fruit. Alors, si je reviens au légume culinaire, celui qu'on déguste dans sa cuisine, en fait, c'est toute partie du végétal consommable. Et il y a plein de légumes différents. Par exemple, on peut manger des racines quand on mange des carottes. On peut manger des tiges quand on mange des asperges ou des pommes de terre.
Pommes de terre, ce sont des tiges.
Ah, ce sont des tiges.
Pas des racines.
Non, ce sont des tiges souterraines gorgées de sucre, mais sont bien des tiges. D'ailleurs, quand vous laissez votre pomme de terre germer, vous voyez qu'elle apparaissent de petites tiges sur cette pomme de terre. Et les yeux, ce sont les yeux de la pomme de terre qui se développent. Et en fait, les yeux, ce sont les bourgeons de cette tige, en fait.
Et alors, les épinards?
Les épinards, qui, des feuilles.
Oui.
Les choux de Bruxelles, des bourgeons.
Ah.
Et les artichauts, les artichauts, des fleurs. Et même carrément des inflorescences, c'est-à-dire des bouquets de fleurs. Les petites fleurs, c'est le foin de l'artichaut qui se trouve au cœur de l'artichaut.
Et l'espèce de grosse fleur violette qu'il y a au-dessus, c'est qui ça?
De l'artichaut. Alors c'est quand on laisse monter l'artichaut, justement, les feuilles de l'artichaut vont s'ouvrir, les bractées s'ouvrent et l'inflorescence s'épanouit. Et à ce moment-là, toutes ces petites fleurs violettes qui étaient le foin dans l'artichaut fermé s'épanouissent, exactement comme un tournesol s'ouvre au soleil.
Je vous ai dit que Catherine Laine était enseignante-chercheuse en physiologie végétale à Grenoble. Ma fourche à languer, je voulais dire, à Clermont-Ferrand. Ce qui est sûr, c'est que Catherine Laine a écrit, édité chez Belin, Dans la peau d'un arbre. Et puisque nous parlons des arbres, partons pour la forêt.
Bonjour, je m'appelle Isaac, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi, quand on y va en forêt, on ne voit plus d'animaux. Merci, au revoir.
On ne voit plus d'animaux, demande Isaac, 6 ans. Bonsoir Isaac, ça veut dire que quand Isaac avait 2 ans, il en voyait plus? Ou c'est une question qui t'a été inspirée par des plus vieux que toi? Peu importe, la question reste bien intéressante. Brice Lefou, vous êtes docteur vétérinaire et directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. D'abord, a-t-il raison, lui ou ses souffleurs?
Les enfants ont toujours raison.
Bon.
Et Isaac a tout à fait raison. Et pareil, j'ai essayé de comprendre un peu comment il percevait ça. Est-ce qu'il percevait parce qu'avant il en voyait, il n'en voit plus, ou il va dans des forêts où il n'y a pas d'animaux? Et pour ça, il faut regarder dans les forêts européennes. Il y a des animaux. Mais les animaux se sont adaptés à la présence humaine. L'homme est source plutôt de dérangements. Il y a des chasseurs, donc ils font attention à pas se faire chasser et ils vont se cacher. Donc, si on veut voir des animaux dans la forêt, eh bien, il faut aller dans des endroits où, dans des forêts qui sont pas très fréquentées, pas très touristiques. Et puis, dans des forêts, il faut y aller soit tôt le matin, soit tard le soir.
Ah,
c'est
oui,
le moment où, en fait, les animaux sont le plus actifs parce que ils savent que là, il y aura pas de prédateurs qui pourraient les attraper. Et si on se promène tôt le matin, on n'a jamais vu autant de chevreuils, notamment en région parisienne,
oui,
qu'aujourd'hui. Donc on voit plus de faune que lorsque moi j'étais plus jeune.
Ah
donc
oui,
y a plus de faune dans les forêts, sauf qu'il faut y aller à des moments précis. Et puis après, il y a aussi les moments de la reproduction. Par exemple, pour le brame du cerf, il y a des endroits très connus où on peut aller, mais il faut se lever très très tôt pour les voir. Le soir, lorsqu'on se promène dans la forêt, on peut aussi voir à l'orée du bois passer un chevreuil, un renard, un blaireau. On voit beaucoup, beaucoup d'animaux. Et pour savoir s'ils sont dans la forêt, j'invite Isaac à acquérir des petits ouvrages où on voit les traces des animaux, essayer de retrouver ces traces sur les chemins. Parce que dans la forêt, parfois on voit des petits chemins qui sont tracés dans la forêt. On appelle ça des petits layons. Et c'est là où passent les animaux. Donc souvent le renard, alors c'est d'abord les plus gros, puis après les plus petits passent là. Et sur ces chemins-là, on peut trouver, s'il y a un peu de boue, du sable, on peut voir des traces. Et si on voit ces traces, on peut les reconnaître en regardant sur les dessins, s'il s'agit plutôt d'un blaireau, plutôt d'un renard, plutôt d'une martre. Il y a encore des animaux dans les forêts européennes. Par contre, et là c'est le deuxième pendant de la question, si on regarde les forêts tropicales aujourd'hui, il y a de moins en moins d'animaux dans ces forêts tropicales. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de forêts, on est en train de la couper, et en plus il y a beaucoup de braconnage. Le braconnage, c'est le fait de chasser les animaux, pas pour soi-même, mais pour alimenter des marchés, hein, on va au marché de la grande ville. Et là, ça devient beaucoup plus grave. On appelle ça, ce symptôme, les forêts vides ou les forêts silencieuses.
C'est triste. Hein.
C'est très triste parce que des animaux qui avant vivaient toute la journée, étaient actifs tout le temps, la nuit, le jour, et avec une énorme profusion de diversité, il faut y être pour le voir. C'est vraiment
avec des bruits incroyables.
Incroyable. Ouais. C'est-à-dire que il y avait très peu d'humains dans ces forêts, donc les animaux étaient vraiment très très nombreux, vivaient les humains qui y vivaient. Chassaient, mais pour eux-mêmes, et ça allait très bien ainsi. Et aujourd'hui, en fait, c'est une organisation presque industrielle où on vide les forêts de toute espèce vivante pour pouvoir alimenter des marchés de, on appelle ça la viande de brousse. Donc, soit on chasse avec des collets, donc tout y passe. Un petit collet, c'est un petit cerceau en métal. Souvent, c'est des freins de vélo. Et en fait, tout ce qui va au sol se prend dedans, mais tout. Du petit cervidé en passant par la petite loutre ou quoi. Et puis après, on a les armes à feu qui permettent de tirer les plus gros oiseaux, puis les singes. Et ainsi, en fait, les forêts tropicales se vident.
Sauvons les primates, c'est le titre du dernier livre de Brice Le Faux qui sortira mercredi prochain.
In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor night, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder, just can't hate them. You're breaking up.
Cette jeune irlando-bangladaise originaire du sud de Londres. Allez, nous partons pour la Bretagne.
Bonjour les petits bateaux, je m'appelle Iloa, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les villes de Nantes, Rennes et Vannes prennent un S. Merci les petits bateaux.
Merci pour ta bonne question. J'entends la souffleuse derrière, mais ma foi, si on souffle quelque chose d'intelligent, pourquoi pas? Marie-Dominique Poré, auteure de la grammaire française pour les nuls chez First Edition. Nantes, Rennes et Vannes, et encore bien d'autres d'ailleurs, prennent un S.
Bien sûr, on peut penser à Versailles, voire à Paris.
Ah mais oui.
Bien évidemment, sans vouloir être trop ethnocentrique. Ouais. Alors pourquoi Rennes, Nantes et Vannes prennent des S? Effectivement parce que ce sont des noms de villes qui en fait prennent leur nom des noms de leurs habitants. Et comme les habitants, c'était des noms au pluriel, par exemple Rennes, c'était la tribu des Rédonesses. Ouais. Nantes, c'était le port des Namuettes, avec un S. Vannes, c'était le peuple des Vénettes. Et Paris, c'était le peuple des Parizii. Et c'est la raison pour laquelle le nom des habitants donnait le nom du lieu, par un principe qui est bien connu qu'on appelle la métonymie, le passage du contenu dans le contenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes ces villes ont des noms avec un S. Donc, pour tous les toponymes qui sont des illustrations de noms de personnes qui ont habité, toutes ces villes prennent un S.
Mais ça, c'est une révélation, Marie-Dominique Poré, parce que moi, je pensais qu'en fait, les habitants prenaient le nom, les Versaillais, à cause de Versailles.
Et là, en fait, on part, le nom de lieu part du nom des habitants. La ville de Rennes a pris son nom de ses habitants. C'est l'inverse. Et pour notre ville, qui n'est pas une ville française, mais on va quand même juste ouvrir à Athènes.
Oui.
Athènes s'écrit avec un S. Même si maintenant, dans la langue actuelle, on essaie d'écrire Athéna en grec moderne avec un singulier. Mais c'est parce qu'en grec, c'était un mot pluriel et en latin, c'était un mot pluriel, Athénae. Et donc, on a mis le S naturellement en français, là, pour correspondre à ce pluriel.
Marie-Dominique Poré a écrit 200 mots étrangers que le français a adoptés aux éditions First et elle est également enseignante. À propos d'enseignants et de jeunes, Le Monde des ados consacre un numéro spécial qui court sur 3 mois. Il consacre ce numéro au bien-être et particulièrement au bien-être en ce moment. C'est vrai qu'entre 11 et 15 ans environ, tout bouge, tout change, dedans comme dehors, et en ce moment dehors, ça se coupe pas mal. Voici quelques titres de dossiers. J'ai du mal avec les autres. Comment stopper les remarques blessantes de mes parents? La puberté qui vient trop ou pas assez vite. Le suicide. Comment se sentir beau? Comment gérer ma colère? Voir un psy, quoi de plus normal? Évidemment, on n'est pas concerné par tous les sujets. C'est un journal, pas un roman. On n'est pas obligé de tout lire. Le menu est classique et la carte est riche. BD, conseils, témoignages, adresses, numéros de téléphone utiles, tests. Si les sujets sont parfois graves, ce numéro est joyeux et la forme magazine est légère. On peut aussi le feuilleter rien que pour les dessins de Bob ou de Ben Radis et d'ailleurs des autres qui sont drôles, touchants et de pures merveilles de dessin. Et là, la sérendipité fonctionne. Sérendipité, c'est trouver ce qu'on ne cherche pas. Par exemple, vous allez marcher dans la forêt comme ça pour prendre l'air et boum, vous tombez sur des girolles. Le Monde des ados en kiosque court sur donc octobre, novembre et décembre. Podcaster, mes amis, ces petits bateaux, ou réécoutez-les tout simplement quand vous voulez par franceinter.fr. Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucoux, Tiffany Baptistelle, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Et là, je vous laisse avec Jérôme Garcin pour un masque et la plume consacré ce soir au cinéma.